en fait, j'ai toujours fait la même chose. On me dit toujours, ah, il a été ceci, il a été ceci, il a été ceci, comme si c'était totalement dispersé. Mais non, pas du tout, j'ai toujours fait la même chose, j'ai toujours raconté des histoires. Moi, je suis toujours inquiet à l'idée de décevoir ou de faire de la peine. Je me réveille inquiet, je me couche inquiet. Alors, comme dans la vie, je suis quelqu'un, je crois, d'assez aimable et même assez gai, qui fait rire les gens et tout ça. On n'imagine pas cette part d'inquiétude. Et pourtant, cette part d'inquiétude, elle est fondamentale.
Le Grand Atelier.
Bonjour, je m'appelle Frédéric Mitterrand.
Sur France Inter.
C'est un invité atypique et attachant qui rejoint notre grand atelier. Atypique parce que c'est un artiste avant tout, mais il ne dédaigne pas le pouvoir. Attachant parce qu'on devine en lui une mélancolie, un penchant amoureux pour le passé qui confère à sa prose une poésie doublée d'une évidente sincérité. Il sait reconnaître ses fautes. Il a aussi le don d'admirer le talent des autres, comédiennes, cinéastes, couturiers, à travers des livres ou des documentaires. Du passé, il fait une matière vivante et son énergie paraît inépuisable. Il multiplie les expériences. Depuis l'enfance, il enfile des costumes différents, joue une variété de rôles. Comédien à 12 ans avec Bourvil et Michel Morgan, patron de salle d'art et d'essai, animateur à la télévision, commissaire d'exposition, directeur de la Villa Médicis ou ministre de la Culture. Dernière casquette, le voilà sur la scène du studio Marigny, à Paris, pour dire quelques extraits de ses livres. Le titre du spectacle est un clin d'œil à son salut si populaire.
Bonsoir, bonsoir.
Mais non, c'est vulgaire.
Bonsoir, bonsoir.
Mais non, pas une petite voix de fossé, une ouais. Voix un peu virile quand même.
Oui. Bonsoir, bonsoir.
Non, il vaut mieux dire bonjour, vraiment.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour, je suis en train de calculer le nombre d'auditeurs qui sont passés sur une autre chaîne depuis le début de cette présentation.
Oui. C'est vrai que vous avez multiplié les fonctions depuis vos études de sciences politiques.
Oui, c'est vrai, j'ai fait pas mal de choses. Et alors on me dit toujours que je me disperse. On ne me dit pas d'ailleurs. Mais enfin, il y a quand même ce reproche un peu sous-jacent. Et en vérité, comme vous avez la gentillesse de le citer tout à l'heure, je n'ai pas l'impression de me disperser, j'ai l'impression de faire toujours la même chose.
Raconter des histoires,
alors dans toutes sortes de domaines et sur toutes sortes de scènes différentes.
En 67, vous êtes admissible à l'ENA, mais oui. Vous ne vous présentez pas à l'oral.
Oui, mais j'ai tort d'ailleurs, j'aurais dû y aller. Mais c'était pas en 67, c'était en 68. Et donc la période 68 était passée par là et m'avait légèrement perturbé.
Pourquoi auriez-vous dû aller à l'ENA ?
Parce que j'aurais pu devenir comme Camille Pascal, conseiller d'État, ça aurait été très bien.
L'un de vos invités, oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le ministre. Je vous tiens à remettre les choses à l'endroit.
Monsieur le ministre.
je ne suis pas énarque.
Vous avez enseigné Frédéric Mitterrand aussi.
Oui, j'ai enseigné pendant 3 ans.
L'histoire géo, l'économie.
Oui, et pas trop mal, parce que tous mes élèves ont eu le bac, l'économie était une matière importante. Mais je me suis rendu compte que j'allais pas faire ça toute ma vie.
Est-ce que vous diriez que le cinéma vous a rattrapé très vite ?
Oui, quand j'ai fait un film à l'âge de 13 ans, j'ai pas eu la chance d'être dirigé par Emmanuel, mais qui est notre autre invité.
Emmanuel Mouret, oui.
Oui, j'ai eu la chance en revanche d'avoir Bourvil et Michel Morgan comme principaux interprètes du film. D'ailleurs, un réalisateur très très convenable,
qui est Alex Joffé. Joffé, oui.
Et alors le film, qui n'était pas du tout un film de la Nouvelle Vague, qui était un film classique français, dans la tradition des studios, avait obtenu un très grand succès. Et il se trouve que j'étais quasiment dans tout le film. Et donc ça a été une expérience qui a été très importante pour moi et qui certainement a déterminé beaucoup de choses pour la suite.
Mais quand je dis le cinéma vous a rattrapé, je pense aux salles olympiques. Vous avez été...
Alors après, j'ai eu des salles de cinéma.
Un patron de salle.
De 1971, pendant 15 ans, oui.
Paris, 14e arrondissement. Le cinéma de quartier est rebaptisé aux couleurs chaudes d'une nouvelle enseigne lumineuse. Frédéric Mitterrand achète sa première salle de cinéma. Entouré d'une équipe de passionnés, il met immédiatement en place une programmation différente. Sur le tableau de liège du couloir d'entrée, quelques photos et de simples feuilles de papier travaillées au crayon feutre. Place à 20 francs maximum.
Et ce sont des salles qui ont eu un certain impact auprès du public, dans la mesure où on a sorti des films dans ces salles. Je dis « on » parce que j'étais pas seul. C'était un petit peu un centre culturel, comme ça un peu militant en même temps. Et donc on a, ou même très militant, et on a sorti effectivement les films de Ozu, par exemple, que les gens ne connaissaient pas en France, ou les films, ou des comédies musicales arabes. Alors ça, c'était pour tout le monde, c'était scandaleux. Les comédies musicales arabes, comment est-ce que c'est possible qu'on montre des navets pareils? C'était pas du tout des navets, c'était des très beaux films. Et puis beaucoup de films de Fassbinder, ceux qui n'étaient pas sortis. Enfin, plein de choses comme ça.
Il y a deux invités de Frédéric Mitterrand à côté de lui. Je vous laisse nous présenter le cinéaste et comédien qui est en face de vous.
Alors, Emmanuel Mouret, qui a fait récemment encore un film absolument merveilleux avec Cécile de France. Emmanuel, quel est le nom exact du film?
Mademoiselle de Jonquière.
Oui. Et à côté de moi, voilà, aussi, Camille Pascal, que j'ai connu à une autre époque. On a quelquefois eu des petits dissentiments que
enfin,
j'ai regretté
tous les
très
deux
vite. Oui, que j'ai
avec
regretté,
Nicolas Sarkozy.
Que j'ai regretté très vite. Il vient de publier L'été des quatre rois aux éditions Plomb, qui a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française et qui est un livre absolument extraordinaire.
On va vous retrouver au théâtre Frédéric Mitterrand dans un instant. Je suis venu dans votre loge du Studio Marigny à Paris après une représentation de Bonsoir, le spectacle que vous donnez en ce moment. Mais on va commencer l'émission avec une chanson de Frank Sinatra, parce que je pense que ça n'est pas un de vos ennemis.
Non, pas du tout. C'est pas du tout un de mes ennemis. C'est un chanteur extraordinaire. Le personnage était immense, complexe, avec des zones d'ombre. Mais c'était pas uniquement le merveilleux chanteur et musicien que l'on connaît.
Vous connaissez sa reprise d'une chanson célèbre de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson?
Je la connais, mais je ne pourrais pas la chanter.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. Woo, woo, woo. Say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey.
Frédéric, t'es visible?
Ouais, je suis visible.
Voilà, Frédéric Mitterrand dans la loge d'un artiste.
Frédéric Mitterrand dans la loge d'un artiste, oui. Mon frère est entré il y a deux minutes et il dit « Ah, c'est la loge de Marlène Dietrich ». Oui, elle est ressuscitée.
Belle loge, hein, avec les fameuses ampoules des.
Oui, mais enfin, on est 10 dans cette loge. Ah bon. le producteur, ma directrice. Voilà, je me déshabille devant tout le monde, ce qui n'est aucun problème d'ailleurs. Mais on est très bien ici.
Alors, je viens de vous voir en scène, Vous étiez habillé comme un ministre avec le costume bleu foncé et la cravate.
Mais c'est-à-dire que non, je me suis pas habillé comme un ministre, mais finalement, je pense que la meilleure solution, c'est que je sois, j'ai l'air le plus sobre possible.
Ça vous fait un drôle d'effet d'être sur scène, Frédéric Mitterrand ?
Ça me procure beaucoup de plaisir. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, c'est très mystérieux.
Vous avez hésité ? Vous avez dit oui tout de suite à la proposition ?
J'ai pas hésité longtemps. En fait, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai un peu hésité devant l'ampleur du projet, parce que je pensais qu'il fallait que si je faisais ça, je l'offrais dans une salle de 200 places. Et là, il y en a 400. Ça s'appelle le Studio Marigny, mais en fait, c'est presque un grand théâtre. Ça m'a fait un peu hésiter. Finalement, non.
Vous aviez envie de quoi avec nous, spectateurs ?
J'avais envie de partager des textes que j'aime bien, et puis j'aime bien lire à haute voix. Et je trouve que lire à haute voix, c'est une manière d'aller vers les autres. Et je trouve que l'exercice qui consiste à la fois à lire des textes que l'on a écrits en retrouvant les sentiments que l'on a ressentis, et puis à les faire partager en pensant qu'éventuellement ça fait naître d'autres sentiments chez des gens qu'on ne connaît pas, tout ça c'est un défi, c'est assez excitant quand même.
Je regrette d'avoir traité le petit Kuhn de sale juif. Je l'aimais bien, le petit Kuhn. On avait le même âge, dans les 13-14 ans. On était très copains. Il était gai, charmant, déconneur, sans se faire pincer. On s'amusait bien ensemble. Il avait juste un petit défaut. Il me prenait mes affaires et les cachait pour me faire bisquer. Je dois dire que ça m'agaçait même. Le petit Kuhn était pauvre. Il ne parlait pas à la neige. J'avais raconté à l'un de mes cousins que j'étais ami avec le petit Kuhn et qu'il y avait tout de même un problème entre nous, cette habitude qu'il avait de me piquer mes affaires et d'attendre que j'aie l'air furieux pour me les rendre. La réponse avait fusé. Il suffirait la prochaine fois que je le traite de sale juif pour qu'il mette fin à son manège. Mon cousin rigolait. Il n'y avait pas de méchanceté en lui, juste le vieux fond rance qui attache encore la casserole. Il ne pensait pas vraiment à mal. C'était une plaisanterie entre nous. De mauvais goût, soit, mais nous en avions bien d'autres au répertoire dans tous les genres, sexuels ou autres, à un âge où l'on ne réfléchit pas aux conséquences.
La lecture dure à peu près 1h20.
Oui.
Vous avez écrit pas mal de livres.
J'avais le choix entre plus d'une centaine de textes. D'abord, je voulais que ce soit très autobiographique, que ce soit vraiment sentimental en quelque sorte. Et puis il fallait que ce soit des textes relativement courts pour que ça puisse s'enchaîner les uns les autres. En fait, ils sont comme des chansons. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des chansons aussi dans le programme.
Ce sont des souvenirs, des moments, ça commence par l'enfance, et il y a des textes assez forts d'ailleurs sur l'enfance, ce sont des moments qui peuvent être des remords aujourd'hui.
Alors, il y avait ce livre qui s'appelait « Mes regrets sont des remords », mais tout n'est pas construit sur ce principe-là. Il y en a quelques-uns, avec cette idée que les regrets et les remords ne sont pas des sentiments négatifs. Ce sont des sentiments qui aident à s'améliorer, en fait. Et qui... Je dis à un moment, à la présentation, qu'on ne s'affaiblit jamais à dire qu'on est désolé. Et on est, au contraire, c'est une manière de témoigner aux autres qu'on pense à eux, et puis c'est une manière de s'améliorer.
Il y a pas mal de fantômes qui traversent... ce spectacle.
Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas un spectacle morbide, mais il y en a quelques-uns, parce que ça fait partie des souvenirs et des gens que j'ai pu rencontrer. Alors effectivement, il y a Rita Hayworth, il y a des gens comme ça, il y a un ami qui m'était très cher et que j'ai perdu quand j'étais adolescent.
Un très beau texte qui s'appelle Thierry.
Oui, qui est un beau texte, je crois.
Un ami que vous avez perdu quand il était encore jeune, et vous aussi, et oui. Qui a toujours été un peu un grand frère.
Oui, qui était très proche de moi, il était très fort. Et il me protégeait, enfin, il m'avait pris sous sa protection. Mes frères ont beaucoup compté dans ma vie. Et lui, c'était un autre frère. Et je l'ai perdu, et donc je m'en suis jamais remis.
Vous parlez énormément d'amour dans ce que vous proposez comme lecture.
Bah oui, mais on parle beaucoup d'amour. Je fais beaucoup de bruit avec mes cintres.
Oui, parce que vous êtes en train de vous rhabiller et de préparer votre sac pour partir.
Oui, je suis désolé. Hein.
Non, c'est ça la vie d'une loge.
Oui, parce que j'ai des gens qui m'attendent en bas aussi. Et... j'aurais dû vous dire, je vois pas pourquoi je vous ai pas dit de venir avant, mais avant on avait des choses à régler. Parce qu'on va, on va très légèrement faire des légères modifications au programme, et ce qui va permettre sans doute de mettre un texte de plus que je voulais avoir et qui est un texte amusant. Parce que je pense que c'est important, surtout que le dernier texte est un texte sombre. Donc je voudrais essayer de compenser un petit peu. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est un peu mélancolique, peut-être, mais...
Le spectacle l'est.
Oui, un peu. En fait, je suis un mélancolique gay. Parce que je rigole beaucoup aussi. Alors ça, je voudrais qu'on le ramène un peu dans le spectacle. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup de gens me disent « Ah, mais on ne vous percevait pas du tout comme ça. » Et ça, c'est un point positif. Et ils me trouvent plutôt plus sympathique que ce qu'ils imaginaient. Bon, ça flatte mon narcissisme.
Vous allez rentrer chez vous, Frédéric Mitterrand. Dans quel état vous serez? Comment vous êtes après le théâtre, là?
Moi, je suis bien. J'ai des choses à faire encore. Je vais m'occuper de mon chien. Je sortirai de m'attendre là, en train de mener quelques destructions dans l'appartement en attendant que j'arrive, parce qu'il est furieux que je le laisse. Et voilà. Et puis je vais réfléchir à ce que je vais un peu améliorer dans le spectacle encore. Mais déjà, on a beaucoup progressé. Je suis très content du décor aussi, je trouve. En plus, Pierre Letan m'a aidé. Alors, il y a quelques-uns de ses dessins qui sont là.
Oui, il y a une projection quasiment permanente, hein, à la fois de photos et de dessins. Oui,
ça passe bien.
Et puis votre passage avec Bourville et Michel Morgan dans Fortuna, oui, quand vous avez 12 ans.
Quand je parle de l'enfance, oui. Donc,
Le train, c'est comme si on allait en vacances. T'as été à la mer?
Non.
T'as jamais vu la mer?
Non.
Moi, je suis allée sur la Côte d'Azur. C'est chouette. Et à la montagne, t'as déjà été?
Non.
T'as jamais vu une montagne?
Bah non.
Moi, je suis allée sur les Alpes, à Megève. C'est chouette. Tu sais skier?
Hein? Non.
La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France.
T'as gagné.
Moi, je suis allée en Angleterre. Tu sais l'anglais?
Non. Et toi, tu sais combien de départements en France?
Ben voilà, ce petit garçon, c'était le Frédéric Mitterrand dont vous parliez tout à l'heure avec Bourville, Michel Morgan. Il était comment, Bourville?
Bourville était un être absolument mais merveilleux. Évidemment, comme tous les gens qui ont fait carrière au début, en jonglant simplet, c'était un homme évidemment très intelligent, très bon. C'était un homme d'une bonté extraordinaire.
Donc, il prenait généreux. Soin de vous sur le tournage.
Il était très gentil. Mais Michel Morgan aussi. Michel Morgan était absolument exquise. Michel Morgan, en plus, c'était la période où elle ne pouvait pas voir son fils, qui a été retenu quasiment en otage par son ex-mari aux États-Unis. Et comme j'avais à peu près le même âge, elle m'avait totalement pris sous sa protection aussi. J'avais de la chance entre les deux. Et puis, alors, Bourville avait un registre dramatique qui s'est développé, d'ailleurs, avec le temps, et qui apparaît dans le film. Il y a le côté rigolo, et puis le côté un peu plus sentimental, il est très, très bon.
À 12-13 ans, vous voulez devenir comédien après ce tournage ou pas?
Moi, j'aurais bien voulu continuer, mais mes parents ont refusé. Et puis, en fait, le tournage, j'ai pu le faire parce que c'était pendant les vacances d'été, mais autrement, je n'aurais pas pu le faire.
Mmh. Emmanuel Mouret, vous, comédien et réalisateur, à cet âge-là, vous vouliez faire quoi? Quitter Marseille, devenir comédien, réalisateur, faire toute autre chose?
Moi, devenir réalisateur, oui. Mais c'était, à cet âge-là, c'est une lubie. Puis, en plus, je pense qu'on a envie de faire des films. Parce qu'on aime les films.
Mais vous aimiez aussi le clown et le cirque, vous?
À le regarder, oui, mais je n'avais pas forcément une envie de jouer. C'est un peu un hasard. Je me suis retrouvé en train de jouer dans mes films. C'est vraiment un hasard.
Camille Pascal, vous vouliez être président de la République?
Ah non, non, non. Non, puis alors, je vous assure que c'est un métier terrible. D'ailleurs, l'actuel titulaire du poste est en train de s'en rendre compte. Je ne voulais pas non plus être écrivain.
Vous vouliez faire quoi?
Je ne savais pas.
En tout cas, c'est un très grand écrivain.
On va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on se tourne vers Emmanuel Mouret, parce que c'est vrai que le cinéma est un peu comme vous, entré dans sa vie très tôt. Court-métrage à 19 ans, études d'art dramatique à Paris, école de cinéma La Fémis, en section réalisation.
Ce qui est très difficile, hein. La Fémis, c'est très très difficile. Moi, j'ai été recalé, on m'a demandé quel était le sens de l'histoire, j'ai répondu le bon et le mauvais, et on m'a montré la porte. C'est très difficile, La Fémis.
Le cinéma n'est pas une science exacte, donc il y a je pense, un petit côté très arbitraire dans...
Oui, mais je pense qu'Emmanuel aussi avait déjà une connaissance du cinéma très grande, plus grande que la mienne. Et en fait, il a certainement, quand il y a eu le grand oral à La Fémis, il a certainement très bien répondu.
Non, pas du tout. Je vais vous avouer que quand je suis rentré dans La Fémis, je me suis senti même un imposteur, parce que je me suis dit que mes collègues devaient être bien plus intelligents et doués que moi, et j'ai passé un ou deux jours à ne pas oser parler pour pas qu'ils s'aperçoivent que je ne suis pas à la hauteur, en tout cas que je m'étais imaginé. Voilà.
C'est assez rare de faire à la fois des études d'art dramatique, donc pour destiné à devenir comédien, et La Fémis en section réalisation. C'est pas si fréquent que ça?
Non, mais parce que le court-métrage que j'avais tourné à 19 ans, s'est avéré pour moi un échec absolu. Et ça m'avait rendu malheureux. Je m'étais aperçu que j'étais incapable de diriger les comédiens, que mon scénario ne tenait pas la route, alors que je m'imaginais déjà promis à une grande carrière. Donc j'étais vraiment très déprimé. Je me suis dit, il faut que je comprenne. Je n'osais pas m'adresser aux comédiens. Et je vais faire un cours d'art dramatique pour savoir ce que c'est que leur métier, savoir leur parler et tout ça.
Et ça vous a appris des choses ?
Énormément, énormément, parce que j'étudiais. Alors j'avais très naïvement entendu, puisque mon scénario était très mauvais, et je me souviens à cette époque, j'avais Godard comme beaucoup de jeunes gens, parce que c'est vrai que Godard crée des vocations et tout ça, et Godard, dans ses phrases décisives, avait dit « Seuls les Américains savent raconter des histoires ». Et moi, j'avais vraiment pris à la lettre. Et c'était une période où je prenais tous les manuels de scénario américains que je traduisais, je faisais l'exercice, j'apprenais les schémas, les paradigmes et tout ça. J'étais vraiment un bon écolier, en autodidacte. Et en fait, en travaillant, parce que dans un conservatoire, on travaille sur le répertoire, eh ben j'ai appris beaucoup de l'écriture par le jeu.
Vous aviez un répertoire particulier, vous aviez...
Écoutez, souvent, mon professeur me mettait à jouer des Marivaux, des Arlequins.
Et sur l'importance de Godard, et mettons l'importance parallèle des cahiers du cinéma, moi j'étais très très marqué par cette influence, jusqu'au moment où je m'en suis vraiment libéré. Parce que je lisais des analyses, et que je trouvais très intéressantes, qui décrivaient des films en les démolissant, en disant qu'ils étaient très mauvais. Et en fait, souvent, ces très mauvais films, je les aimais beaucoup. Et donc, à un certain moment, je me suis dit, mais il faut que j'arrête d'être prisonnier de ce qu'on me dit d'aimer, et que j'aille vers ce que j'aime vraiment.
À quel moment vous êtes un peu autonome ?
Quand j'ai commencé à avoir mes salles de cinéma. Et j'ai commencé à passer des films avec Lana Turner, par exemple, qui était considérée comme étant beaucoup moins bien que toutes les autres actrices hollywoodiennes. Elle était d'ailleurs un peu moins bien, mais elle était quand même formidable.
Alors, Emmanuel Mouret, très vite, il y a un Emmanuel Mouret qui sort là de la boîte. Il est à la fois comédien dans ses films, il est réalisateur et il signe ce qu'on pourrait appeler des comédies. Mais des comédies avec quel adjectif derrière ?
Mais je n'ai jamais aimé, moi, le terme de comédie.
Je pense à un baiser, s'il vous plaît. Fais-moi plaisir, caprice.
Parce que de ce que j'aimais, enfin, si je cite Lou Beach, Billy Wilder, Jacques Becker, des cinéastes qui m'étaient très très chers, ce que j'aimais, c'est que justement, ce qui fait rire fait aussi pleurer. Donc, je me suis souvent inspiré de mes rêveries. Et donc, j'aimais bien ce terme de fantaisie.
Ah, vous faites des fantaisies, c'est beau.
Voilà. D'ailleurs, je continue à me battre cette idée comme quoi le cinéma, c'est la vie. Non, le cinéma, ce n'est pas la vie. C'est le cinéma. Comme on dit que la musique, ce n'est pas la vie, c'est de la musique. Oui, le cinéma s'inspire de la vie, mais j'aime cette idée que le cinéma est là pour inspirer la vie.
Frédéric Mitterrand.
C'est très, très juste ce que dit Emmanuel. Et quand on voit son dernier film...
Mademoiselle de Jonquière.
Oui, Mademoiselle de Jonquière. Quand on voit la manière dont il a dirigé Cécile de France ou la jeune fille qui joue le rôle de la Gourgandine, qui était une beauté fracassante. Les deux sont très très belles. Enfin, d'ailleurs, les femmes sont belles dans les films d'Emmanuel. Emmanuel aime les femmes et il les montre avec une tendresse absolument formidable. Quand on voit la manière dont il les dirige, eh bien, il y a effectivement... Oui, c'est ça, une fantaisie, une liberté, une tendresse surtout, merveilleuse.
Dites-moi, aimiez-vous votre défunt mari ?
Quelle drôle de question, mais bien sûr, Marquis.
Vous l'aimiez vraiment ?
Comme une femme se doit d'aimer son époux.
Il arrive que certaines personnes mariées prouvent une inclination sincère.
En vérité, j'avais beaucoup d'amitié pour lui, jusqu'à notre mariage. Après, elle fut troublée, contrariée.
Regretteriez-vous d'avoir été mariée ?
Voulez-vous connaître mes idées ? Je trouve regrettable que le mariage soit accessible à des âmes si peu préparées. De la même manière que l'on nous enseigne le maintien ou le latin, il faudrait nous enseigner la vie à deux avant que d'être mariés.
C'est un enseignement que seul l'amour peut délivrer.
Eh bien, c'est que je ne serai jamais faite pour la vie à deux.
Mais n'avez-vous jamais eu envie d'aimer et d'être aimé ? Vraiment aimé ?
Enfin, oui. J'ai d'ailleurs très tôt observé les êtres qui se disent unis par l'amour, et très vite, je me suis aperçue qu'ils nous donnent le spectacle des plus jolies apparences, afin que nous voyant convaincus, ils puissent eux-mêmes s'en persuader. Je ne crois qu'à l'amitié. L'amour, quand il est mêlé à la chair, devient aussi fragile que celle-ci. Un rien l'abîme.
Madame, comment aimer l'amour si vous n'en avez jamais rien vu d'aimable ?
Ce qui me frappe dans ce film inspiré de Jacques le Fataliste, de Diderot, en tout cas d'un épisode de Jacques le Fataliste, c'est cette langue. Cette langue qu'on n'entend pas souvent au cinéma aujourd'hui, Frédéric Mitterrand.
C'est admirablement écrit. Je pense que un des éléments de la séduction que ce film a exercé et continue d'exercer sur le public, c'est le plaisir d'écouter cette langue. Avec en plus un détail qui montre la maîtrise d'Emmanuel Mouret, c'est qu'on comprend tout. Parce que on va à la Comédie Française maintenant, comme on comprend une phrase sur deux. On va voir la plupart des films, on comprend une phrase sur deux. Parce qu'il y a cette espèce de prise de son naturaliste qui fait que c'est comme si les comédiens, c'est terrible, c'est très réactionnaire ce que je dis, mais c'est vraiment, je le pense, on a le sentiment qu'ils n'articulent plus.
Alors comment vous avez réussi ça?
Là, il y a toutes les syllabes se détachent.
Quel travail. Parce que je sais que, en tout cas, une grande partie, en tout cas, de la dramaturgie, en tout cas, de mes films, se situe dans la parole et dans le dialogue. Mais ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose que disait Éric Rohmer. Pour choisir un comédien ou une comédienne, avant tout, c'était l'énonciation, l'addiction, voilà. Et qu'il avait envie de cette clarté. Moi aussi, je suis assez attaché à cette clarté. Je comprends très bien ce que dit Frédéric. Après, il faut rendre aux comédiens ce qu'est leur travail.
Mais ce ne sont pas spécialement des acteurs de théâtre, hein. Cécile de France, Édouard Baird.
Édouard Baird est absolument formidable dans le rôle du libertin.
Camille Pascal.
Oui, je vais utiliser un adjectif qui va m'attirer les foudres de certains auditeurs, mais c'est un vrai film français. À la fois par la qualité des dialogues, puisqu'aujourd'hui, nous avons le choix quand même entre des onomatopées ou des dialogues absolument incompréhensibles.
Alors là, vous êtes réactionnaire.
Oui, mais ça, je l'assume, mais je suis vraiment, c'est comme ça que je me définis. Et donc, ce film est une merveille parce qu'il rend au cinéma français ce qui a fait sa grandeur pendant l'entre-deux-guerres et même après-guerre, c'est-à-dire des dialogues étincelants. Des dialogues qui vous rendent intelligents et qui sont magnifiquement incarnés. Et nous avons des acteurs qui ont fait leur travail d'acteur. C'est-à-dire que non seulement ils ont appris leur texte, mais ils ont appris à le dire. Or, aujourd'hui, nous avons souvent des acteurs qui ne connaissent pas leur texte et qui ne savaient pas les prononcer. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, c'est l'inverse. Et personne, je suis sûr, n'a parié un copec, en tout cas un centime d'euro sur ce film. Or, je crois d'ailleurs qu'il a été assez...
producteur, si, quand même.
Oui, mais il a été assez peu soutenu, d'après ce que je sais. Et donc, financièrement. Et donc, je trouve que c'est une formidable revanche de l'esprit français.
Pour une fois, vous ne jouez pas dedans, Emmanuel Mouret, d'ailleurs.
Il ne faut jamais s'en prendre aux acteurs. Le grand responsable, c'est toujours le réalisateur. Hein. Attention. Donc, si un acteur vous déçoit, c'est le réalisateur qui en est responsable, ne serait-ce que de l'avoir choisi.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que chacun a sa responsabilité professionnelle.
Alors, je dirais à Camille qu'il y a malgré tout, il y a eu après la période du cinéma français dit classique. Il y a eu, avec la Nouvelle Vague aussi, des textes magnifiques. Oui. François Truffaut était un véritable homme de lettres. Les textes dans les films de Truffaut sont magnifiques. La manière dont les personnages
parlent. Chez Truffaut, chez Chabrol, chez Rohmer.
Oui, et alors évidemment Rohmer.
Oui. Vous ne croyez pas à mon amitié?
Je vous connais pas.
C'est vrai, il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble, et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous.
Oui, c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences.
Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler. J'ai envie de m'épancher.
Faut vous marier.
Avec qui?
On va écouter une chanteuse française qui a un physique d'actrice, c'est Clara Luciani. Est-ce que vous la connaissez, Frédéric
Non,
Mitterrand?
Je ne la connais pas.
C'est la nouvelle perle pop française chouchoutée par France Inter. Elle a grandi dans la banlieue de Marseille. La perle pop. Pas très loin de... Elle a grandi pas très loin de chez Emmanuel Mouret. Je suis certain qu'elle va vous plaire.
Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire. À croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien. Et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Les vrais les amours sont muets. Tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait. Je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien.
Atelier sur France Inter.
Frédéric Mitterrand, vous allez au théâtre, vous allez à l'opéra, vous allez au cinéma, vous allez voir des concerts ou vous restez chez vous quand vous ne jouez pas? Vous
sortez? Je sors très peu, oui.
Vous restez avec votre chien?
Oui, ou je m'occupe de mes fils aussi, parce que je m'entends très bien avec mes fils.
Ils n'ont plus l'âge de faire des devoirs avec vous?
Non, ils n'ont plus l'âge de faire des devoirs avec moi, mais ils ont l'âge de me prouver qu'ils m'aiment bien et de venir me voir. Donc je passe du temps avec eux.
Ils sont grands maintenant?
Ah, ils sont grands, 45, 40, 27.
Ils travaillent?
Ils travaillent tous, bon. Et très bien en plus.
Vous allez voir des expositions?
Oui, je vais voir des expositions. Non, mais je mène pas une vie de moine. Simplement, comme je travaille beaucoup, que je veux garder du temps pour lire, je sors pas énormément. Et au fond, mon principal loisir, c'est d'aller au cinéma.
Il paraît que vous aimez Niki de Saint-Phalle.
Oui, j'aime beaucoup Niki de Saint-Phalle. Et mon frère, Jean-Gabriel, a été pendant très longtemps son agent, en quelque sorte, car il a une galerie d'art contemporain avec son fils qui est tout à fait remarquable. Et j'ai connu, par lui, par d'autres amis, Niki de Saint-Phalle pendant de longues années.
Une rétrospective lui est actuellement consacrée en Belgique, au Musée des Beaux-Arts de Mons. Ça s'intitule « Niki de Saint-Phalle, ici tout est possible ». Et Elsa Denac a demandé à Caroline Dumoulin d'être sa guide.
Ici, tout est possible. Niki de Saint-Phalle a toujours refusé d'être mise dans une case. Elle est née dans une famille aristocratique où on attend des jeunes filles de l'époque, dans les années 50, de se former à l'école et ensuite trouver un époux et de fonder une famille.
Je ne voulais pas qu'on me donne un rôle. Je voulais avoir le choix de mon rôle.
À l'âge de 21 ans, elle a malheureusement une dépression nerveuse qui l'amène à être hospitalisée pour 6 semaines. Et c'est au cours de cette hospitalisation qu'elle se met à peindre. Avec cette série qu'on appelle les paysages de la mort, où on voit toute une série d'objets plus agressifs. Vous avez un élément de scie, vous avez un revolver...
Une lame de rasoir, et les seules traces d'humain qu'on a, c'est un œil seul, une main seule, voilà. Et un bout de visage découpé.
Ces tableaux, au fait, expriment tout simplement voilà, son mal-être. À l'âge, malheureusement, de ses 12 ans, elle a été abusée par son père. Et donc, elle a vraiment masqué ce viol, cet inceste, pendant des années. Et c'est à travers l'art qu'elle a pu s'en sortir et qu'elle a pu exprimer toute cette colère qu'elle a accumulée au fil des années. Vous êtes ici dans une salle qu'on a intitulée Les Tirs. Vous avez un panneau en bois qu'elle recouvre de plâtre et sur lequel elle vient placer toute une série de poches contenant soit des aliments, soit de la peinture, qu'elle recouvre encore ensuite de plâtre, de peinture, et elle invite l'assemblée à tirer sur ses œuvres. Son objectif premier, c'est d'entrer en contact avec les visiteurs, avec les citoyens et de les sensibiliser à l'art. Elle tire contre à la fois son éducation aristocratique bourgeoise, très rigoureuse, contre la religion, contre le patriarchisme.
J'étais féministe à l'âge de 12 ans.
Elle essaye de dénoncer la manière dont la société essaye de renvoyer une image de la femme qui la positionne dans des rôles bien définis.
Rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, les femmes avaient la défense de sculpter, parce que ça leur donnerait des mauvaises idées. Rappelez-vous que Camille Claudel a passé 30 ans enfermée. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière.
À partir de 64, on va voir apparaître ces fameuses nanas. Ces nanas, en fait, sont un peu le symbole de ce qu'une femme devrait réellement être au niveau de la société. C'est-à-dire une femme joyeuse, indépendante, imposante aussi.
J'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond. C'est un monde féminin et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui enfin a attendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui.
Elle va créer ce qu'on appelle les nanas-maisons, qui sont des maisons conçues pour les adultes, dans lesquelles les adultes peuvent s'installer, rêver.
On va vite voir la nana-maison.
Dans le jardin?
Oui.
Et on rentre par où alors, dans les
nanas? Par l'arrière.
Par l'arrière-train?
Par l'arrière-train.
Ça va résonner. Ah ah. L'idée, c'est vraiment que les visiteurs s'installent et puis prennent le temps de profiter du lieu. Et
donc on est au cœur, vraiment au oui. cœur de Nikki, là.
Voilà, complètement.
On est dans dans l'utérus. Hein.
Un utérus bleu.
C'est une artiste qui est engagée, qui s'est opposée à ce qu'on l'enferme dans un moule, qui s'est battue aussi par rapport à l'image cliché qu'on renvoyait un peu des femmes. Et je pense que ça fait très fort écho à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, avec tout ce mouvement, notamment MeToo, où il y a vraiment une volonté de ne pas baisser les bras, de se battre et de se dire que voilà, tout est possible aussi à notre époque.
Le Grand Atelier. Vincent Josse, sur France Inter.
Frédéric Mitterrand.
Ça me donne envie d'y aller, et en même temps, il y a tellement d'autres choses aussi qui me donnent envie d'aller dans plein d'endroits, que je sais que j'irai pas, voilà. C'est très dommage, mais je suis très heureux et très reconnaissant à Vincent Josse de montrer ce reportage.
D'Elsa Denac.
Per l'ombra e per
Madame Butterfly, Puccini, oh, voilà quelque chose qui nous rappelle de bons souvenirs. Frédéric Mitterrand, surtout à vous, vous aviez réalisé ce film, Madame oui. Butterfly. Vous disiez à l'époque, j'avais envie de rendre hommage au mélo de mon enfance, au mélo que
oui,
j'aimais.
Oui, parce que le scénario de Madame Butterfly est un scénario absolument formidable. Ça raconte évidemment une histoire qui, dans tous les lieux et dans tous les temps, et j'imagine que même Puccini avait dû connaître des histoires semblables parmi des servantes abusées en Toscane, dont on prend l'enfant et qu'on renvoie à la rue. Ben c'est ça l'histoire de Madame Butterfly, c'est une petite japonaise qui se fait faire un enfant et qui est abandonnée par l'homme qu'elle aime. C'est un mélodrame flamboyant, avec une musique extraordinaire. Camille Pascal, à côté de moi à l'instant, vient de me dire que Puccini annonce quelques-unes des grandes partitions des films américains. Il a parfaitement raison. C'est très, très frappant. Il y a cette espèce de lyrisme magnifique. Puccini n'a pas forcément la cote maximale auprès des puristes de l'opéra, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Moi, je l'adore. Mmh.
Emmanuel Mouret, vous pourriez vous lancer, vous, dans l'opéra, dans la mise en scène de théâtre, dans autre chose que les fantaisies dont vous parliez. Vous venez de le faire avec Mademoiselle de Jonquière en vous inspirant librement de Diderot. Est-ce que votre route va aller vers...
J'ai un goût très prononcé pour le lyrisme et notamment pour le mélodrame. Pour moi, c'est un terme auquel je suis très attaché.
Va falloir faire votre mélo.
Douglas Sirk, Léo Macaré, John Stahl, pour moi, ce sont des cinéastes qui ont autant compté que ceux que j'ai cités. Puis d'ailleurs, j'ai fait moi-même, entre guillemets, un petit mélodrame, un film qui s'appelait Une autre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup la carrière de Léo Macaré.
Elle est lui,
mais qui a commencé à mettre en scène les Marx Brothers, qui a fait des comédies absolument inoubliables, et en même temps aussi qui a fait Elle est lui.
Avec Deborah Kerr et Cary Grant, ouais. Qui a été fait deux fois d'ailleurs.
Il en a fait une aussi avec Irène Dune et Charles Boyer, et il a repris, je crois, 20 ans plus
en
tard.
Scope Couleur.
Voilà, en Scope Couleur. Ouais. Voilà.
Mais L'été des Quatre Rois, ça ferait aussi un film extraordinaire. Ouais.
Camille Pascal, effectivement, avec Emmanuel Mouret, on est au 18e, Diderot, avec vous, on est en 1830.
Oui. C'est la révolution inattendue, la révolution dite de juillet.
C'est souvent inattendu, les révolutions.
Oui, mais alors celle-là, disons qu'elle a été déclenchée par le pouvoir et par la presse. C'est la première grande révolution médiatique, puisque il y a un vieux roi, Charles X, qui règne sur la France depuis bientôt 5 ans. À la fin de sa vie, cet homme a une obsession qui est de rétablir la France dans la pureté des origines. C'est-à-dire que il pense que la France a été abîmée, salie par la Révolution, qu'elle a en plus, elle s'est jetée dans les bras d'un sous-officier d'artillerie qui s'est pris pour un empereur romain. Et donc, il pense qu'il va avoir, lui, le courage que son frère Louis XVI n'a pas eu. Il est persuadé qu'il y a des Jacobins partout. Et donc, il va signer dans le plus grand secret plusieurs ordonnances qui, le lendemain, mettent le feu aux poudres.
Il n'avait pas vraiment le sens de l'opportunité, il avait d'autres qualités, mais...
Il n'avait aucun sens politique, ou en tout cas, il avait une vision de la politique qui n'était plus de saison, mais ça, il ne l'avait pas compris. Il est l'émigré parfait, c'est-à-dire celui qui n'a rien appris ni rien oublié, et il est surtout habité par une conviction religieuse profonde. En cela, en plus, il est épaulé par son premier ministre, le prince de Polignac, dont il semblerait d'ailleurs que ce soit aussi son fils adultérin, ce qui explique les liens très forts entre les deux hommes. Et le prince de Polignac lui explique que régulièrement, il a la Vierge, le visite la nuit, et oui. lui a donné feu vert pour les ordonnances. Alors, il faut aussi comprendre que pour le roi Charles X, le temps est venu parce que, d'abord, nous sommes dans une grande période de prospérité. La France a retrouvé sur la scène internationale la puissance
son
qu'elle
prestige,
avait,
oui.
son prestige. Et il vient de réussir un coup fumant qui va d'ailleurs marquer l'histoire de France pendant 130 ans. C'est que les troupes françaises viennent de prendre Alger. Et donc, il vient de réussir là où Saint-Louis a échoué. C'est-à-dire qu'il a remis le pied français de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, pour lui, l'heure est venue d'en finir avec toutes ces nouveautés intellectuelles et politiques que l'on avait imposées à sa famille.
Frédéric Mitterrand, ça n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman. Hein.
Alors oui, c'est ça. Camille Pascal nous montre le contexte, qui est très intéressant sur le plan historique. Mais le livre est extraordinaire.
Pourquoi ?
Parce qu'il est totalement foisonnant. D'abord, il est d'une érudition formidable, mais une érudition légère, c'est-à-dire que on n'est pas étouffé par les références. On a vraiment l'impression d'être dans la chambre du roi, d'être dans la chambre de son cousin, le futur Louis-Philippe, d'être parmi les enfants royaux. Regardez par exemple, Rue d'Anjou. Fallait-il partir ou rester ? Depuis le retour de sa visite aux frères Mallet, les banquiers de la Chaussée d'Antin, pour y signer des lettres de change payables sur les places de Londres et de Genève, la comtesse de Boigne ne savait que décider et donner à ses gens des ordres contradictoires. Elle avait vu la peur sur le visage de ses hommes d'affaires et la haine dans le regard des femmes du peuple. Elle n'oubliait pas les privations de l'émigration où, jeune fille pauvre, elle avait été obligée de se vendre à un mari très riche, sorti de nulle part et deux fois plus âgé qu'elle. Voilà. Il y a un panorama de l'époque, du temps, qui évidemment nous incite à penser à notre époque.
On fait des parallèles.
Tout d'un coup, on fait des parallèles et on pense à notre époque.
Alors à quoi vous pensez, par exemple, de notre époque ?
Bah, on pense à l'agitation actuelle et à la manière dont l'agitation actuelle est perçue ou n'est pas perçue par le pouvoir. On pense à l'irruption soudaine, parce que les Trois Glorieuses à Paris, c'est l'irruption soudaine d'une émeute populaire qui renverse un régime qui était pourtant, qui semblait pourtant assuré de son... De son avenir.
Et ce que j'ai essayé de montrer, d'abord je voulais plonger le lecteur dans l'événement.
Oui, on est dedans, en plein.
Plonger, c'est pas lui expliquer la vie, l'avant, après.
Quand vous décrivez les robes des dames, voilà, la manière dont on construit des meubles, etc.
Je voulais plonger dans la... Et je voulais que ce soit visuel, c'est-à-dire que le lecteur d'aujourd'hui n'est pas entre l'événement et lui, un historien qui lui explique tout, mais qu'il voit, qu'il regarde. Et j'ai voulu montrer aussi que l'événement a une sorte de vie personnelle, de vie indépendante, et que les acteurs font avec. Et que vous avez ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ne voient rien ou qui ne veulent rien voir, ceux qui attendent, qui cheminent, et puis il y a ceux qui ont une vision politique fulgurante. Et là, ils sont deux. Hein, deux, tout les sépare, et en fait, ils sont très unis par une admiration mutuelle, ce qui est très étonnant, c'est... Talleyrand d'un côté et le jeune Adolphe Thiers de l'autre. Et ils pensent tous les deux la même chose. Et Thiers, c'est assez fascinant, hein, c'est un jeune journaliste marseillais de 30 ans et qui pense que l'heure de la République n'est pas encore arrivée, qu'il faut donc trouver un moyen terme. Et ce moyen terme, c'est peut-être une solution de compromis avec le duc d'Orléans. Mais c'est vrai que il pense que la France ne peut plus supporter une monarchie absolue, mais qu'elle n'est pas encore prête pour la République.
C'est amusant de vous entendre tous les deux parler d'histoire, parce que je voudrais qu'on rappelle quand même que vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy, que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Mitterrand, que vous étiez souvent pas d'accord avec votre voisin Camille Pascal. Vous étiez conseiller à l'audiovisuel de Nicolas Sarkozy, Camille Pascal, et vous, ministre de la Culture. Qu'est-ce qui vous différenciait ? Sur quoi vous battiez-vous ?
Est-ce que je peux, comme je voulais juste dire un mot, si le ministre me le permet.
Quel ministre ?
Nous avons travaillé ensemble, Camille. Vous étiez le ministre, et voilà. Je respecte, moi, alors à la lettre, le protocole et l'étiquette républicaine.
D'accord. Et donc... Emmanuel nous regarde.
Frédéric Mitterrand a été ministre de la République, et pour moi, il reste le ministre. Alors, okay. Simplement, quand vous avez présenté Frédéric Mitterrand, vous avez présenté l'homme qu'il est, c'est-à-dire un homme aimable, cultivé, mais il y a un élément que l'on connaît peu, qui est une autorité naturelle. Oh. Et donc, si, une autorité naturelle et une très grande fermeté dans l'expression de son autorité. Et donc, quand vous êtes conseiller du président de la République et que vous avez le ministre de la Culture, eh bien, en effet, parfois, vous pouvez vous heurter à une autorité.
Voilà.
Et il a eu d'ailleurs raison à ce moment-là, parce que les conseillers du prince ont parfois, le défaut de considérer qu'ils sont au plus près du pouvoir et qu'à ce titre, ils peuvent l'exercer.
On va écouter quelqu'un qui a été comédienne, mais qui est surtout une grande interprète, c'est Marianne Faithfull. Je pense qu'elle ne vous déplaît pas non plus.
J'adore Marianne Faithfull. C'est une personne merveilleuse, elle habite à Paris en plus.
Elle vient de sortir
un
disque.
Elle fait des concerts extraordinaires.
Et on va l'écouter dans un duo avec Nick Cave.
I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And
follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her say, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen.
Frédéric Mitterrand, on va remercier vos premiers invités, vos deux premiers invités.
Camille Pascal et Emmanuel Mouret, on va les remercier parce qu'ils nous ont dit des choses, je crois, très intéressantes pour vous et pour vos éditeurs.
L'été des quatre rois, grand prix du roman de l'Académie française.
C'est pas rien.
Cette institution que vous rêvez de connaître un jour.
Bon,
et
je
de rejoindre.
Connais, je passe souvent devant. Oui, c'est très joli, c'est un très beau bâtiment. Bon,
vous rêvez d'être académicien français. Vous avez tenté votre chance deux fois.
Je rêve de faire les émissions de Vincent Jousse.
Quel flagrant
honneur.
Voilà
mon principal rêve.
Emmanuel Mouret, bonne suite.
Merci beaucoup.
Et à tout de suite, Frédéric Mitterrand.
Tout m'intéresse. J'ai un problème, moi, tout m'intéresse. Et donc, ce qu'on appelle la culture populaire m'intéresse, les gens m'intéressent, les différences m'intéressent, la marginalité m'intéresse, tout m'intéresse.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand atelier de Frédéric Mitterrand, l'homme qui a exercé plusieurs métiers, mais affirme n'avoir fait qu'une chose, raconter des histoires. Tout m'intéresse, disiez-vous un instant, c'est vrai ?
Oui, enfin, les gens antipathiques ou les gens vraiment méchants m'intéressent pas. Hein. Du moins, ils m'intéressent de loin. J'essaie de comprendre pourquoi ils se comportent mal, mais j'ai pas envie de les voir. En revanche, les gens sympathiques, créatifs, riches sentimentalement, comme ceux qui sont invités à cette émission, grâce à vous, Vincent, eh bien, cela m'intéresse énormément.
Bah, présentez-nous vos invités. Ils sont trois dans cette deuxième heure de votre grand atelier, Frédéric Mitterrand.
Alors, Jacqueline Duhem, illustratrice, dessinatrice, et elle a fait plusieurs livres dont elle nous parlera de dessins absolument mais délicieux, délicieux. C'est d'une grâce et d'une tendresse pour les êtres et pour les choses tout à fait extraordinaire. Elle a notamment fait toute une série sur Jacqueline Kennedy quand elle a eu l'opportunité de la suivre, qui est absolument ravissante. Et là, elle est en train de faire un livre à partir des Luards.
Bonjour Jacqueline Duhem, bienvenue.
Bienvenue. Bonjour. Jacqueline Duhem.
Marisa Berenson, le cinéma est avec nous.
Alors Marisa Berenson, actuellement a pris un risque terrible et qu'elle assume totalement et dont le résultat est un succès formidable qui est le Berlin Cabaret où elle chante. Elle incarne en quelque sorte l'esprit de Berlin des années 30.
Dans un spectacle de Stéphane Drouet qui se tient au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Et en face de vous?
Et en face de moi, Olivier Frege. Olivier Frege qui est mon metteur en scène pour le spectacle Bonsoir et à qui je suis vraiment redevable parce qu'il m'a vraiment aidé à affronter cette épreuve.
Je voudrais qu'on commence cette deuxième heure de votre grand atelier en vous faisant lire une chanson de Piaf, Frédéric. Frédéric Mitterrand. C'est une chanson que vous évoquez dans votre spectacle Bonsoir au studio Marigny. Est-ce que vous voulez bien lire quelques vers? Oui, on peut dire ça, de la chanson
vers,
de Piaf.
Quelques instants, oui. Ce sont les mots d'amour. Hein. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Des fois, je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour. Mon amour, mon amour, mon amour.
C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour.
Ça résume un peu aussi le spectacle, je trouve, cette chanson de Piaf.
Ça résume le spectacle, et puis comme je suis à côté de Marisa Berenson, je le dis avec d'autant plus de cœur.
Vous adressez à Marisa Berenson, entre autres. Il y a des chansons, on le disait tout à l'heure, il y a pas mal de chansons françaises, mais pas seulement. Il y a notamment l'amitié de Françoise Hardy, et vous parlez au public à ce moment-là en disant toute l'amitié et l'admiration que vous portez à Françoise Hardy. Pour quelle raison?
Moi, je suis pas le seul, je pense, en France. Françoise Hardy, c'est immense, Françoise Hardy. De toutes les immenses qualités, je redis encore le mot immense, la douceur, la tendresse, les mélodies, la poésie, il y en a une qu'on ne cite pas en général pour Françoise Hardy et qui est pourtant, à mon avis, une qualité qui la résume d'une certaine manière, si tant est qu'on veuille résumer Françoise Hardy, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'elle jugeait être sincère et honnête. Le résultat, c'est une trajectoire, mais incroyable, sur 40 ans de carrière, parsemée de chansons, toutes plus belles les unes que les autres.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton
J'ai remarqué que Marisa Berenson chantait sur la chanson.
C'est et tellement oui. Joli.
Vous chantez beaucoup en général dans
moi,
la vie?
J'adore chanter, oui.
Françoise Hardy entre autres?
Ça, en tous les cas, oui. C'est toute mon époque, ça.
Une époque qui continue, qui revient.
À l'époque de cette chanson, à peu près, vous faisiez quoi? Vous étiez où, Marisa Berenson?
J'étais à Paris, en fait. C'était quelle année, ça, quelle, cette
chanson?
J'étais
presque une adolescente.
Milieu des années 60.
Oui, non, je commençais ma carrière de mannequin, oui. Et j'étais entre Paris, New York et un peu le monde.
64, la chanson est de 64.
64, oui.
C'était avant Cabaret, avant...
Avant
les grands films.
Avant les grands films.
Oui. Oui. Quand vous pensez à Marisa Berenson, au-delà du spectacle dont on va parler, Frédéric Mitterrand, vous pensez à quel film? Qu'est-ce que vous avez comme image d'elle?
Je pense à Cabaret, où elle joue le rôle de la jeune Mendelssohn. Je pense à Visconti. Et puis je pense bien évidemment à Barry Lyndon. Mais on a toujours tendance à vouloir enfermer Marisa Berenson dans ce rôle extraordinaire,
hein, qui
est un moment de l'histoire du cinéma, qui est le rôle de Barry Lyndon. Mais en fait, Marisa Berenson n'a pas arrêté de faire des choses intéressantes et de grande valeur. Et encore, il n'y a pas si longtemps, ce film italien,
Io sono l'amore, oui, amore, qui est
un film absolument formidable. Et on parlait tout à l'heure avec Emmanuel Mouret des grands mélos flamboyants, enfin des grandes aventures romanesques. Et Marisa Berenson joue un des rôles principaux. Et c'est un film formidable.
Jacqueline Duhem, est-ce qu'on vous enferme, vous, un petit peu trop dans l'illustratrice des poèmes de Prévert, de Paul Éluard, des textes de Gilles Deleuze? Vous avez fait beaucoup d'autres choses, Frédéric Mitterrand le disait, vous avez été aussi, d'une certaine manière, avec vos crayons et vos pinceaux, reporter pour elle.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé cette période-là, parce que d'abord je m'entendais très bien avec les Lazareff. Ils accédaient à tout ce que je demandais comme reportage, et je suis partie, j'étais grand reporter, même j'ai suivi De Gaulle en Amérique du Sud. C'était très amusant. J'ai beaucoup aimé ça.
On a tous des images de Jacqueline Duhem. On a tous vu, sans savoir forcément que c'est Jacqueline Duhem qui les a faites. Mais on a tous des images de Jacqueline Duhem.
Un dessin à la fois réaliste, naturaliste et poétique.
Oui, poétique, charmant. Jacqueline Duhem, c'est une perpétuelle jeune fille. Oui, Jacqueline, vous avez 90 ans, vous êtes une jeune fille.
91.
Et vos dessins sont les dessins d'une jeune fille très technicienne, hein, c'est très très bien fait, mais d'une jeune fille poétique comme ça, et ça a une fraîcheur absolument incroyable.
C'est vrai que votre vie et votre travail nous font rêver, parce que vous parlez très amicalement de Prévert, très amoureusement encore de Paul Éluard. Vous les avez côtoyés et ils vous ont aimé et adopté tout de suite. Vous avez fait partie de leur vie.
Ah oui, ça c'est un vrai bonheur, il reste toujours pour moi vivant.
Prévert et Jacqueline Duhem, c'était quel type de relation? Comment vous travaillez avec lui?
Oh ben, c'était surtout drôle avec Jacques. C'était drôle, je l'ai connu parce que Matisse m'a envoyé faire dédicacer paroles qui venaient de sortir. Et quand je suis arrivée à Saint-Paul-de-Vence, il me dit « Mais je te connais, toi je t'ai vu chez la libraire, j'ai demandé qui c'était cette petite. » Il m'a dit que t'étais chez Matisse, j'avais 20 ans à l'époque. Et il me dit « Et toi tu me connais ?» Et moi, assez conne, comme ça, je fais « Ben non ». Alors il dit « Ah, Jeannine, mets une assiette, qu'on fasse connaissance ». Et là, je suis rentrée dans la famille de plein pied, quoi. C'était une merveille.
Ah oui, on entrait dans la famille Prévert.
Ah oui, oui, il était assez sectaire, hein. Il fallait pas n'importe qui comme copain dans ses relations. Il était très exigeant pour des tas de trucs, mais c'était une merveille, vraiment un type délicieux.
Je pense qu'il aurait beaucoup aimé Marisa Berenson aussi, Jacqueline.
Il lui aurait mis une assiette.
Il lui aurait mis une assiette et il lui aurait écrit des répliques. Parce que dans Berlin Cabaret, c'est un spectacle où il y a vraiment du texte et l'évocation d'une période qui a été souvent visitée par le cinéma et moins souvent sans doute sur une scène de théâtre, en tout cas en France. Et là, tout d'un coup, ça vient avec les paroles, les musiques, et tout ça, c'est incarné par Marisa.
On a un jeune acteur-chanteur, qui est aussi metteur en scène d'ailleurs, qui joue le prince dans Podane, à oui. Marigny, à Paris. Bonjour Olivier Frege.
Bonjour.
La poésie de Prévert a fait partie de votre enfance, et peut-être est toujours dans votre vie?
Oh, la poésie de Prévert a fait partie de mon enfance, et d'autant plus dans ma vie que ça a été mon cadeau de première du producteur de Frédéric Mitterrand pour la première de Bonsoir, au théâtre, Marigny. J'ai eu la Pléiade des œuvres complètes de Prévert comme cadeau de la part du producteur, parce que Prévert a fait partie de ma vie depuis tout petit, et aussi parce que Jacqueline Duhem a fait partie de ma vie depuis tout petit, et que l'illustration est une problématique qui rentre beaucoup dans mes questions de metteur en scène.
Donc, ah bon ?
Ça fait partie de mes questionnements qui, à part peut-être Pina Bausch et quelques grands génies de la mise en scène, comme Chéreau et comme mon maître d'apprentissage qui était Robert Carsen, ont cette question du temps, l'illustration et le texte ont cette chose merveilleuse qu'on peut regarder l'image, retourner au texte, revenir à l'image. On a une liberté de temps en tant que spectateur-lecteur que le théâtre ne permet pas toujours.
Vous aviez quoi comme livre de Jacqueline Duhem, petit?
Oh, alors là,
L'Opéra de la Lune.
L'Opéra de la Lune, oui. Mais je suis sûr que j'en avais plus que ça. Et j'ai été entouré dans mon enfance, moi, par des gens qui sont devenus illustrateurs aujourd'hui, éditeurs pour enfants, qui sont toujours mes amis très proches. Donc l'illustration est toujours autour de moi.
C'est intéressant de savoir que le dessin peut inspirer une mise en scène, un acteur sur un plateau, un mouvement.
La question du temps. Comment est-ce que la parole est... si on prend Emmanuel Bov, qui avait été mis en danse par Dominique Baguet dans les années 80, c'était meublé sommairement, c'était incroyable. Il avait réussi à faire que l'écoute du texte et le mouvement en même temps, de par leur coïncidence ou leur décalage, leur anticipation ou leur délai, donnait un espace de liberté, un espace d'imaginaire au spectateur qu'on n'a pas au théâtre parce qu'on va mettre toujours, et au cinéma encore moins, l'image en même temps que la parole, en même temps que le son. Là, on avait ces décalages qui permettaient ça et je trouve que l'illustration en est l'exemple le plus marquant.
Jacqueline Duhem, vous saviez que vous pouviez inspirer des metteurs en scène ?
Oh ben pas du tout, hein.
Non. Ça vous donne
eh bien
envie.
Voilà.
Voilà, vous le savez maintenant et ça vous donne encore envie de continuer. Vous travaillez toujours à 92 ans, hein ?
Ah bah oui, bien sûr, tant que je peux.
Je suis allé chez Jacqueline Duhem, j'ai eu ce privilège-là.
Alors, à quoi ressemble son atelier?
Ah ben, c'est très joli. D'abord, c'est très clean, c'est très bien rangé. Il y a tous les crayons, les pinceaux, les papiers, etc.
Les aquarelles.
Tout ça, c'est bien, bien, bien en place. Et on sent qu'elle travaille tout le temps. En plus, c'est très clair, c'est très lumineux. Et je pense que la lumière naturelle, c'est un peu aussi celle qu'elle a dans son cœur, en fait. Et donc voilà, ça marche très très bien.
Mais
par rapport à ce que vient de dire Olivier Fretsch, je voudrais juste dire aussi que Berlin Cabaret, c'est ce qui est très très frappant, c'est la manière dont Marisa bouge sur scène. Parce que en vérité, on a des références. Marlène Dietrich et l'Ange Bleu, on a Liza Minnelli et Cabaret. Et bien là, il y a autre chose encore. On a vraiment le sentiment que Marisa Berenson se donne complètement à ce rôle. Et donc, alors, il y a une scène sur une chaise, qui est assez érotique,
Dites-nous ce que vous jouez,
alors, déjà. Je joue une meneuse de cabaret qui a été une ancienne prostituée dès l'âge de 17 ans, qui est dans la survie permanente entre ces deux guerres à Weimar, quand il se passait dehors, c'était l'apocalypse. Et à l'intérieur de ce cabaret, c'est un lieu de liberté d'expression où elle reçoit des artistes qui sont juifs, communistes et autres, homosexuels. Enfin, il y a de tout. Il joue pour les nazis. Elle couche avec les nazis. Elle a un fils qui est travesti, qu'elle déteste.
Elle est dure avec lui.
Elle est très dure, mais c'est une femme cassée aussi. C'est une femme qui a vécu des choses terribles et qui est dans la survie permanente. Et l'argent qui vient dans ce cabaret, en partie, c'est son fils qui se transforme, qui fait des numéros incroyables. Donc ça remplit les caisses, comme elle dit. Mais en même temps, elle le déteste parce qu'elle voudrait qu'il soit quelqu'un de macho et d'un vrai homme, quoi, ce qui n'est pas. Donc il y a ce rapport de haine, mais d'amour profond, en fait. Et c'est un très beau personnage parce qu'il y a il y a beaucoup de facettes de cette femme qui est quelqu'un de complètement dévasté intérieurement, mais qui à l'extérieur est d'une dureté qui finit par trahir tout le monde pour survivre. Mais il y a quelques chansons comme ça qui montrent aussi son côté humain, son côté... parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas forcément ce qu'elle montre à l'extérieur. Et elle a son ancien amant qui est là, avec qui elle a couché, qui l'a maltraité, qui l'a batté, mais qu'elle retrouve, enfin tout ça. Et elle trahit tous ces gens à la fin pour survivre et pour continuer ce cabaret qui est sa vie, en fait, et qui est la seule façon de survivre à l'époque.
Quand la lune est ronde, le soleil est noir, dehors la ville gronde de désespoir. La guerre est finie, la crise est sociale et l'économie abyssale.
Vous l'aimez ce personnage, hein?
Mais oui, finalement, elle est terrible. Elle dit des choses terribles, elle est très très... Mais c'est tellement beau à jouer parce que bon, il y a une décadence. Évidemment, la décadence au cinéma et au théâtre, c'est toujours très intéressant de jouer. C'est vrai. Et en plus, bon, c'est très grave, mais il y a des choses avec beaucoup d'humour. Et c'est un sujet qui est très, je pense aussi, assez malheureusement, qui réveille un peu.
Ça fait penser à beaucoup de choses.
Et, oui, ça fait penser à beaucoup de choses. Et on espère que tous ces jours-là ne vont pas revenir. Mais bon, moi, je rêvais de faire quelque chose comme ça, de danser, de chanter depuis toujours.
Vous n'aviez jamais fait ça.
Et non, pas un spectacle comme ça. J'ai fait une petite chanson sur un...
Sur une émission,
à côté
il y a 20
de chez
ans.
Fred, oui, une émission de Frédéric.
Vous aviez chanté quoi?
J'avais Fais-moi rêver, ou je ne sais pas, un truc à croissant. Un petit disque que j'avais sorti, 45 tours.
Mais c'en était resté
j'ai,
là.
Voilà. Non, voilà, j'ai chanté avec Tom Jones une fois, voilà, j'ai fait des petites choses comme ça.
Mais pas sur une scène.
Mais jamais sur une scène, jamais en comédie musicale.
Vous pourriez nous chanter un refrain du spectacle?
Pas a cappella, comme ça.
Quelquefois,
ça,
quelquefois des acteurs... Ah bon allez-y, Marisa Berenson, n'écoutez pas Frédéric Mitterrand, on vous écoute.
La pauvre.
Non.
Alors attendez, lequel je vais chanter? Au rayon des amours à vendre, on m'a mise à 17 ans. Je n'ai pas cessé d'apprendre. Le mal était Dieu, et je jouais le jeu, mais j'en ai gardé gros sur le cœur. Dieu merci, tout passe ici bien vite, passe l'amour et passe les regrets. Hier tu pleures, où sont tes larmes? Où est la neige qui tombait l'an dernier? Hier tu pleures, où sont tes larmes? Où est la neige qui tombait l'an dernier?
On l'applaudit
Merci.
Faire ça a cappella comme ça, c'est...
Je ne suis pas chauffé la voix, là.
Non, c'est formidable, hein.
On va continuer de parler avec vous trois, Jacqueline Duhem, Marisa Berenson, Olivier Fred. Je voudrais qu'on écoute un chanteur qu'on entend dans le spectacle de Frédéric Mitterrand, Adriano Celentano.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Preghiero per te. Che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore.
Frédéric Mitterrand ne chante jamais quand est diffusée une chanson.
Non, mais je peux pas chanter. Enfin, si. Alors, j'ai un côté karaoké quand même. C'est-à-dire que quand j'écoute Adriano Celentano, j'ai tendance à chanter.
Dans mon coin,
j'ai envie de chanter, oui. Voilà.
J'ai entre les mains Grindel, Paul Éluard, Jacqueline Duhem. Alors, vous connaissez l'histoire de Jacqueline Duhem, jeune fille de 20 ans, Frédéric Mitterrand, avec Paul Éluard, qui lui en avait plus que deux fois plus. Connaissez-vous cette histoire?
Non, je ne connais pas cette histoire, mais vous allez nous l'apprendre. Voilà.
Jacqueline, pouvez-vous nous dire qui a été Paul Éluard pour vous?
Ben, écoutez, à ce moment-là, j'étais ouvrière d'usine chez Pathé Marconi. J'étais au S1 Métallurgie. Et il venait parler aux ouvriers dans les usines, ce qui ne se fait plus du tout, je regrette maintenant, des poètes. Donc, c'est la première fois que je l'ai vu, j'étais complètement fascinée. Puis, il avait une très belle voix, une diction très à lui, Paul. Comme ça, il parlait avec une espèce de... Enfin, un vocabulaire très Éluard, c'était très joli. Et puis après, quand j'étais à la maison de la poésie pour faire dédicacer des bouquins pour une copine, il était là. Et là, je lui ai demandé de dédicacer le bouquin. Il me regarde, il dédicace le bouquin pour moi. Je fais non, non. Mais il me dit, c'est pas un problème, vous en prenez un autre, il y en a à vendre. Mais moi, j'avais pas de sous. Hein. Alors, je dis non, je peux pas. Ben, il me dit, vous m'attendez. Alors, quand je l'ai attendu à la fin des dédicaces, et puis il me dit, c'est quoi le problème? Ben, je dis, moi, j'ai de quoi, je paye ma carte de métro, mon semelage, j'ai pas assez de sous pour acheter un livre comme ça, c'était digne de vivre, hein, avec des bois gravés, c'était assez cher. Mais il me dit, c'est pas grave, j'en prendrai, il en prend un, puis dédicace pour la copine. Puis il me dit, c'est pas tout simple, mais là, faut qu'on aille déjeuner ensemble, hein, vous me devez un déjeuner maintenant. Mmh. Et puis c'est parti de là, moi je suis tombée raide dingue, hein. Il était merveilleux, il était beau en plus, il avait des grands yeux bleus.
Oui, il était beau, hein. Oui.
Il était beau, Paul.
Votre histoire amoureuse a duré combien de temps?
Oh, bah, jusqu'à la fin de ses jours. Mais après, il s'est marié avec Dominique. J'ai bien aimé Dominique aussi. Mais il y avait une espèce de tendresse un peu spéciale entre Paul et moi, c'est vrai.
Mais la rupture a eu lieu parce que, moralement, ça ne se faisait pas qu'un homme d'un certain âge tombe amoureux d'une jeune femme.
Je me suis fait engueuler par Aragon, Elsa Triolet, tout ça. Vous vous rendez compte, j'avais l'air d'avoir 14 ans, c'est une honte. Enfin, quoi, ça, je me fais engueuler. Hein.
Bon. C'est romanesque, hein.
Jacqueline était très, très mignonne, hein, parce qu'elle est encore mignonne. Alors, elle était très très je mignonne. Il y avait le côté comme ça,
c'est une belle histoire.
Pixelated, on dit en anglais. Côté,
oui, et ce qui est fascinant chez Jacqueline Duhem, c'est qu'elle dit oui, alors Matisse me dit, oui. Je croise Paul Éluard.
Et vous constatez, Vincent, que ça se passe toujours, le démarrage c'est toujours autour d'une assiette quand même. Hein.
Oui.
C'est un moment important.
On pourrait écouter un poème de Prévert. On aime bien pour faire le portrait d'un oiseau, dit par Annie Girardot. Ça vous convient?
Ah oui, tout à fait. Je l'aime beaucoup.
Pour faire le portrait d'un oiseau. À Elsa Henriques. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis effacez un à un tous les barreaux. En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante... C'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
C'est joli, comme
c'est
tout.
Joli.
Hein.
Oh. Ouais.
Et puis alors la voix d'Annie Girardot. Oui. Hein.
Olivier Frey, elle vous fascine, hein, cette voix.
Ah oui, moi la voix d'Annie Girardot, cette diction et l'expressivité qu'il peut y avoir à l'intérieur, toute l'émotion qui est sous-jacente sans jamais être explicative, c'est... ça va droit, directement à l'émotion.
Alors vous qui êtes un enfant de Prévert, qui avez connu les livres de Jacqueline Duhem, vous voilà dans l'univers de Jacques Demy et Michel Legrand, puisque vous incarnez, en alternance d'ailleurs, le fameux prince.
Avec Mathieu Spinozzi, oui, on est deux princes.
Alors comment c'est arrivé dans votre vie?
Oula,
le
hasard le plus absolu. Moi, je pensais que ma carrière sur les planches était mise de côté, que je resterais dans l'ombre.
Parce que vous étiez à la fois assistant à la mise en scène et metteur en scène.
Voilà, exactement. Et puis, le fait est que je fais pas mal d'autres choses. Hein. Je fais aussi une excellente tarte aux pommes. Enfin, je me résume pas à ça. On en parlait
un
avec Frédéric.
D'amour.
On résume beaucoup.
Ça, j'ai pas eu.
Non, pas encore.
Faudrait
que je m'en occupe. Et par ailleurs, effectivement, j'ai eu chanté et j'ai eu commencé sur des toutes petites scènes il y a une dizaine d'années.
Vous avez été formé à ça?
Oui, j'ai fait une année au conservatoire en Hollande, et puis j'avais voilà, une formation musicale par ailleurs. Et puis Jean-Luc Choplin, qui m'avait donné ma première mise en scène d'opéra au Théâtre du Châtelet, me dit, quand il prend la tête de Marigny, j'aimerais bien vous donner une mise en scène, me propose une comédie musicale, The Fantastics, que je vais mettre en scène au mois de mai prochain au studio Marigny. Et il me pressait un peu pour avoir des résultats, avoir des esquisses de ce que j'allais faire. Et j'avoue, j'étais très en retard et je n'avais pas tellement avancé. Donc pour faire la blague, je lui envoie une chanson que j'avais chantée de Jacques Demy, mais il y a une quinzaine d'années, dans une de mes toutes premières choses comme ça. Dans
laquelle
un petit, qui était dans Les Parapluies de Cherbourg, le duo avec Geneviève. Je lui envoie ça en lui disant « Voilà mon audition pour La Fée des Lilas ». Faisant une espèce de blague, une espèce de pied de nez pour le faire patienter et le faire rire un peu pour essayer de gagner un peu de temps, j'avoue. Et Jean-Luc m'a appelé et il me dit « Mais dites donc, vous chantez bien, hein ? Vous aviez pensé à faire le prince dans Peau d'âne ?» Il m'a donné un mois pour préparer la chanson, j'ai auditionné pour lui et il m'a donné cette opportunité incroyable de relever ce challenge et d'avoir cette occasion de remonter sur les planches de manière tout à fait intimiste au Théâtre Marigny, dans une salle de 1000 places sur les Champs-Élysées et dans Peau d'âne avec la musique de Michel Legrand, quoi. C'est une chance incroyable.
C'est un avantage pour moi qui suis dans la salle dessous, au studio Marigny. Moi, je termine juste un petit peu avant Peau d'âne. Et donc, pendant l'entracte, Olivier descend, habillé en prince, pour voir comment ça s'est passé.
Et donc, là, vous sentez Catherine Deneuve.
Ben oui, je sens, je suis complètement perdu, là, je sais plus. Je vois arriver, un jour, mon prince viendra.
On va l'écouter chanter un extrait du spectacle Peau d'âne, Olivier Frege, dans le rôle du prince.
Vous avez l'air bien mystérieux, monseigneur.
Je viens de voir la plus belle chose en ce monde. Un ange.
Diable.
Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande, si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages, j'ai bien cru reconnaître son regard.
Frédéric Mitterrand, vous auriez aimé faire de la comédie musicale?
Mais moi, je suis incapable de chanter.
Ça n'a jamais été un fantasme de faire ce que fait Olivier Frege, là?
D'être habillé en prince, oui. De m'envoler avec une princesse sur un trapèze, oui. Mais de chanter en même temps, non.
C'est ce que vous avez fait de plus difficile, Olivier Frege, dans votre carrière ou pas? Ça semble.
Non, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de me diriger.
Alors c'est un mélange.
Ah oui, parce que vous dirigez Frédéric Mitterrand dans son spectacle.
Oui, j'ai eu cet avantage-là. Ce qui est incroyable dans la mise en scène, c'est qu'on est soit à l'origine d'un projet, on le met en place, soit on a cette chance-là qui est, et c'est vraiment pas une mauvaise chose de ma part, de dire qu'on fait à manger avec ce qu'on met dans le frigo. C'est-à-dire qu'effectivement, Frédéric a rempli le frigo d'aliments particulièrement de qualité, et dans son écriture et dans cette multitâche, il disait tout à l'heure, tout m'intéresse. Moi, j'ai reconnu énormément de choses quand j'ai rencontré Frédéric pour la première fois. J'ai rencontré quelqu'un qui fait, alors on dit toujours, il était ministre, il a fait des émissions de télévision, il a fait ça. Frédéric Mitterrand, mais vous êtes qui? Et puis alors, vous montriez...
Je suis le surgelé du spectacle, voilà.
Voilà. Et vous montriez l'affiche où il a été bâillonné, je pense. que beaucoup de gens auraient bien aimé.
Et Bayonnet, il y a écrit
le
bonsoir.
Le Bayonnet, et puis et finalement, il me dit, mais on me fait parler tout le temps, mais on m'a jamais, personne m'a jamais entendu. Et quand j'ai entendu ça, on peut pas ne pas connecter à ça.
C'était dans une période sombre.
Vous aviez eu du mal à quitter le ministère de la Culture. Après, vous aviez une petite dépression ou pas, Frédéric Mitterrand?
Non, j'ai pas eu de dépression. J'ai eu des difficultés. C'est pas pareil.
De quel ordre? De quel type?
On vous pardonne jamais d'avoir changé de tiroir dans la vie. Donc, le fait d'avoir exercé des fonctions particulières, ben, je sais pas, ça intimide les gens ou ça les agace. C'est pas le fait d'avoir été, d'avoir exercé ces fonctions dans tel ou tel gouvernement, c'est simplement de les avoir exercées. Et donc, effectivement, on a beaucoup plus de mal à avoir les gens au téléphone, des gens qu'on avait souvent au téléphone. Puis moi, je voulais surtout pas faire un métier particulier qui est le métier d'ancien ministre.
Comme d'autres le font.
Oui, un peu, mais il y en a qui font très très bien, puis d'autres d'une manière un peu plus brutale, disons. Enfin, moi, je voulais pas le faire. Donc, je voulais retourner à la case départ, je voulais faire ce que j'avais toujours fait, c'est-à-dire des spectacles, écrire, etc.
Et des documentaires.
Et donc, j'ai eu du mal. Voilà. Et puis, peu à peu, ça s'est arrangé. Mais les deux ou trois premières années ont été très difficiles.
Et ça vous stimule, là, aujourd'hui, d'être sur scène, non?
Oui, ça me stimule, ça m'intéresse, je le fais avec cœur, avec de plus en plus de satisfaction au fur et à mesure que je prends un peu d'assurance sur scène, parce qu'au début j'étais quand même un peu intimidé. Je suis très content de pouvoir rajouter ce mode d'expression à ce que j'ai pu explorer dans le passé.
On va à nouveau écouter Podane, La Fée des Lilas, mais c'est le film qu'on va écouter. Alors dans le film, c'est Christiane Legrand qui chante La Fée des Lilas, mais Delphine Seyrig avait fait une maquette aussi, elle aurait rêvé de chanter le rôle, mais Demi et Legrand avaient trouvé ça pas satisfaisant. Alors on écoute les deux versions, Christiane Legrand et puis Delphine Seyrig dans La Fée des Lilas.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent démoralisant, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
C'est dommage, enfin, Christiane Legrand chante très bien, elle chante dans plusieurs films de Demi, mais je trouve que Delphine Seyrig avait beaucoup de qualité aussi comme chanteuse, Frédéric Mitterrand.
Delphine Seyrig était de toute façon quelqu'un d'absolument extraordinaire. Mmh. Le monde s'est appauvri avec la perte de Delphine Seyrig.
Qu'est-ce qui faisait son talent? Qu'est-ce qui était extraordinaire chez elle?
Alors, sur le plan simplement technique, on dirait une diction inimitable, parfaite. Et sur le plan personnel, un engagement, une honnêteté extraordinaire. Moi, quand j'avais mes salles de cinéma, j'hébergeais Delphine Seyrig et le groupe de jeunes femmes militantes qui étaient autour d'elle. C'était bien avant tout ce qu'on connaît maintenant. Et
avant MeToo, vous voulez dire?
Oui, et c'était amusant en plus. Parce que Delphine Seyrig était assez ferme, hein, il fallait pas rigoler avec ses convictions. Mais à partir du moment où elle sentait que j'étais peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde dans beaucoup de domaines, mais que j'étais pas dangereux et pas hostile, et qu'au contraire, j'étais partisan du fait qu'elle puisse faire tout ce qu'elle voulait faire, et notamment dans mon cinéma, parce qu'elle n'avait pas trouvé d'autre endroit pour installer son petit groupe. À partir de ce moment-là, alors, les relations sont devenues absolument charmantes.
Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
Et alors, un jour, j'ai vu un film dont elle n'apparaît pas au générique, et c'est un film fait par Robert Frank, le photographe, qui se passe, ça s'appelle Pull My Daisy, ou une chose comme ça. Ça se passe à New York, dans les années 60. Delphine Seyrig n'est pas encore du tout connue, et elle est dans le film. Elle est dans le film quasiment du début jusqu'à la fin. Mais alors ça, c'était certainement une période très militante new-yorkaise, et donc pratiquement personne n'est marqué au générique. Et pourtant, elle est dedans. Si un jour on fait une rétrospective Delphine Seyrig, il faudrait absolument passer ce film, parce qu'elle est toute jeune, et il y a déjà quelque chose d'incandescent autour d'elle.
Pourquoi vous n'êtes plus programmateur, finalement, de salles de cinéma? Ça vous irait bien encore aujourd'hui, ça vous ferait plaisir?
Parce que j'ai peur que les machines tombent en panne. Voilà. Et que ça m'est arrivé dans mes salles de cinéma et que j'en ai gardé un souvenir absolument traumatisant.
Olivier Frege, comment on dirige quelqu'un qui n'a jamais fait de scène comme Frédéric Mitterrand?
On l'écoute en premier lieu. Je crois que c'est ce qui m'est venu en premier, ça a été de l'écouter le plus possible pour essayer de savoir. Et ensuite, on essaye de petit à petit donner un imaginaire de ce qui peut se réaliser au théâtre et de ce que le théâtre apporte par rapport à d'autres médias que Frédéric connaît bien mieux que moi. J'arrivais avec une petite spécialité qui était ce temps supplémentaire. Je parlais des choses du temps avec l'illustration, du temps qu'on a pour voir les choses. On avait un temps qui est l'histoire du récit, de ce qu'il raconte, des petites histoires et de la grande histoire que Frédéric raconte en retraversant de 47 jusqu'à aujourd'hui au travers de ses anecdotes. Et en même temps, des histoires au sens conte, on parlait de Podane, parce que ce sont des fables, parce qu'il y a des morales, parce qu'il y a une petite morale, la belle morale derrière tout ça. Et puis le temps de la représentation. Et c'était ce temps-là que j'avais envie d'apporter à Frédéric et donc de lui montrer que le fait que chaque soir, ça allait être différent, que chaque soir, il allait s'adresser aux gens de manière différemment.
Hélas.
De manière différente, ça a apporté quelque chose d'exceptionnel.
Le temps, c'est quoi? C'est le temps de la confession, un peu.
C'est pas de la confession.
C'est ni la déclaration, ni la confession.
Non, parce qu'on n'est pas dans le Frédéric Mitterrand des années 80, volubile, lyrique.
Ah, bonsoir.
Voilà, c'est terminé, cette époque-là.
Non, ni dans la confidence, ni dans la déclamation.
C'est assez intimiste.
Dans le récit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vincent, c'est comme des chansons, en fait. Ce sont des chansons de 3 minutes qui se succèdent.
Tu m'as dit, Frédéric, que tu voulais les lire comme si c'était pas toi qui les avais écrits.
Oui.
Et je pense que dans cette façon d'aborder les choses et de dire les choses, parce qu'on sait qu'il dit « je », parce que ce sont ses histoires, mais qu'il les lit avec cette distance-là, ça nous permet, en tant que public, je crois, de connecter... Comme on connecte à l'histoire de chaque être humain pour toucher un peu plus à l'universel.
Tous les soirs, je suis à l'affût du clac, c'est-à-dire du fauteuil qui se referme avec la personne qui part, en me disant je suis toujours à l'affût de ça. Et pour l'instant, il n'y en a jamais eu.
Oui, pour diriger Frédéric Mitterrand, il faut savoir faire ça, c'est-à-dire lui dire que non, les gens ne vont pas partir et que même, à la fin, regardez, ils applaudissent.
C'est un inquiet. Content.
Un peu.
Oui, c'est un inquiet. Marisa Berenson, qui vous a appris votre métier de comédienne? Vous étiez mannequin et puis d'un seul coup, vous êtes sous les lumières et avec des cinéastes comme Visconti, Bob Fosse, Kubrick, etc. Qui vous apprend à être devant une caméra et crédible devant une caméra?
Alors, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Mais enfin, j'ai quand même travaillé à New York parce que pendant que j'étais mannequin, j'allais faire des cours de théâtre et je faisais des off Broadway, comme ça, des petites choses. Et puis un jour, Visconti m'a fait confiance parce qu'en fait, la chose la plus importante quand on est jeune et qu'on a envie de faire quelque chose, c'est évidemment la passion, l'envie de le faire. Et moi, j'avais un rêve, mais je n'imaginais pas que ça allait être un rêve qui se réaliserait comme ça. Et Lukin m'a fait vraiment confiance, c'est-à-dire il m'a pris dans ce rôle de mort à Venise sans savoir si je pouvais jouer. si je savais jouer. D'ailleurs, il m'a dit, je vais devoir te faire un screen test, et parce que j'ai besoin d'une actrice pleine d'émotions, comme ça, qui peut pleurer, qui peut être comme très émotive, et je ne sais pas si tu sais jouer. Et à la fin, j'ai jamais fait le screen test. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on commence dans une semaine. Piero Tosi, il m'a fait les costumes, et je me suis retrouvée comme ça, du jour au lendemain, sur cette scène, et c'était extraordinaire. J'avais l'impression que vraiment j'étais où je devais être dans ma vie, dans mon destin. C'est quelque chose que je ressentais profondément en moi. Et il m'a dit après, ce soir-là, il est venu dans ma chambre, parce que j'habitais chez lui, il m'a dit, Marisa, tu as ma bénédiction, parce que tu as pas peur de la caméra. Et tu as fait une entrée à la Sarah Bernard, il m'a dit. Ça, je l'ai jamais oublié. Et si tu veux continuer, tu as ma bénédiction. Voilà. Alors ça m'est resté, évidemment, toute ma vie, comme la chose la plus importante qui m'a donné le courage et de continuer, parce que on sait jamais. Et puis moi, j'étais quelqu'un de timide et pas très sécurisé, même si devant la caméra j'avais beaucoup d'aisance en tant que mannequin. Mais c'est pas la même chose quand on part de, voilà, la transition est différente et d'ailleurs plus difficile, parce qu'on croit pas en vous. On se dit, si elle est mannequin, elle peut pas jouer.
Oui.
Donc il faut se prouver plus.
Il faut que je demande à Olivier Fredge de me faire une entrée à la Sarah Bernard.
Oui.
Il vaut toujours mieux une entrée à la Sarah Bernard qu'une sortie à la Sarah Bernard, si vous voulez mon avis.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir, que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler et lui dire « Embrasse-moi une fois encore. »
C'est Proust.
C'est Proust. C'est du côté de chez Swann,
par
André Dussolier.
C'est beau.
Le merveilleux Dussolier en plus.
Oui. Et je trouve qu'avec ce passage de Proust, on est dans l'humeur de bonsoir de Frédéric Mitterrand.
Sauf que personne ne vient m'embrasser sur scène pour me dire bonsoir. Mais enfin, avis aux amatrices et aux amateurs.
De nos contemporains, vous êtes le plus proustien d'entre tous.
Oh non. Vous savez, je me méfie beaucoup de cette étiquette proustien. Vous savez, c'est une chose d'ailleurs qui est extraordinaire avec Proust. Les gens ne lisent pas Proust, ils le relisent toujours. Je vais partir relire Proust. Et en fait, on s'aperçoit quand on leur parle qu'ils ne l'ont jamais lu.
Ouais.
Vous ne vous êtes jamais remis de votre enfance?
Mais personne ne se remet jamais de son enfance. Mmh. Ça a permis d'ailleurs à Sigmund Freud de faire une belle carrière. Personne ne se remet de son enfance.
Jacqueline,
mais simplement, c'est savoir comment on s'en arrange.
Vous êtes remise de votre enfance, qui n'était pas facile. Hein.
Mais vous savez que c'est ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai connu Marisa Berenson, petite fille.
Ah bon?
Oui, au Lido.
Non.
Oui.
Avec ma grand-mère?
Oui.
Mais non.
Et vous étiez une jolie petite fille. Et oui, parce que j'allais
incroyable.
Beaucoup au Lido avec oui. Marina Volpi.
Ah oui.
Moi, c'était ma première admiratrice, qui avait la villa d'Imazère avec tous les Véronèses.
Oui, exactement.
Et je descendais beaucoup chez elle et on allait au Lido en vacances avec Diamante et Marina.
Exactement.
Tout ça. Voilà.
Elle avait la cabane.
Je vous ai connue petite.
Le Lido de Venise.
Elle avait la cabane.
Au Lido de Venise.
La cabane sur la plage à côté de ma grand-mère.
Voilà.
Et la grand-mère de Marisa, il faut le rappeler, c'était quand même un génie absolu. C'était Schiaparelli.
Incroyable.
La célèbre couturière.
Comme c'est joli. Oh. Ça me touche.
Jacqueline Duhem, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que vous publiez? Qu'est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous dessinez?
Ben, je suis repartie sur Éluard parce qu'en fait, j'avais eu des problèmes avec la fille de Paul. Parce que Gallimard avait publié un petit poche avec mon nom aussi gros que celui de Paul. Ça fait un drame épouvantable. Il y a eu un procès. Antoine Gallimard a payé l'avocat pour que j'ai le droit de faire des livres au moins de luxe après, quand ça serait fini. On m'a repris Grindel, ce qui a été pour moi un chagrin épouvantable. Et il est chez un autre éditeur. Mais j'avais le droit de faire les livres de luxe, là, et je suis en train de les faire. C'est des cuivres. L'imprimerie, c'est l'imprimerie nationale. Et c'est vraiment, il est charmant. Je suis très contente de faire les 50 exemplaires. Là.
Et ouais. Puis, on peut lire ou relire, comme dirait Frédéric Mitterrand à propos de Proust. Une vie en crobar. Vous racontez votre vie en croquis, en dessin. Et c'est aussi un de vos livres magnifiques. Merci d'avoir été l'invité de Frédéric Mitterrand, Jacqueline Duhem. Merci Marisa Berenson.
Merci beaucoup.
Également d'avoir chanté a cappella.
C'est oui, un invité formidable. Hein
non, pas ouais. Des fois.
Et puis le prince et accessoirement metteur en scène, Olivier Frege. Jouez bien, prenez du plaisir en scène et donnez-en encore Frédéric Mitterrand avec Bonsoir, une sélection de textes amoureux. J'ai envie d'employer cet adjectif pour terminer votre grand
avec
atelier.
Avec le Z de Zamour.
Si je peux dire Zamour. Une chose, il dit une chose merveilleuse à un moment, il dit « J'oublie souvent que les adultes sont aussi des enfants comme moi ». Et c'est exactement ce que je retiens du spectacle.
Merci à vous, Vincent, de nous avoir invités et de nous avoir offert ces deux heures délicieuses.